Bord de Seine. Théâtre Le Passage. Série. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Radar. Vous nous écoutez sur radar.arensor.com. En direct du théâtre Le Passage. On est un petit peu en retard, on est désolé, mais ça c'était un petit peu dû au passage des validations de tests Covid, etc. Le temps que tout le monde passe, voilà. Donc ça y est, nous sommes enfin en direct. On remercie le théâtre Le Passage de nous accueillir ce soir. Merci au public d'être resté un petit peu avec nous. Et puis merci également à Paul Révaux. Je me suis pas trompé dans votre nom.
Non, Dévaux, c'est bien.
Dévaux, c'est mieux. Oui. Hop, avec un petit peu moins de...
Larsen,
c'est encore mieux. Voilà, c'est du direct. Hein. Paul Dévaux, donc, je vais m'y faire pour ce spectacle que nous venons de voir. Alors, on va vous donner l'eau un peu à la bouche, à chers auditeurs qui nous écoutaient de chez vous. Vous avez raté quelque chose, mais c'est pas grave, on va vous en parler. C'était un spectacle, donc, musical, un conte, toute une histoire autour, tout un voyage dans le temps autour des séries en partant des années 70 voire même 60, parce que là on est parti de Hitchcock quand même jusqu'à Game of Thrones, jusqu'aux séries actuelles. Un long voyage à la fois poétique, il y a une narration autour justement géopolitique, commerciale, enfin ça aborde énormément de sujets. On voit la profondeur des personnages qui s'épaissit de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. Au départ ils sont très légers, puis plus ça va, plus c'est travaillé. Il y a vraiment une exigence du public qui est demandée aussi au travers, enfin juste derrière nos écrans. On est là à se dire bon, ben c'est bien gentil de vouloir essayer de ressembler à des beaux cow-boys super balèzes, etc. Mais petit à petit, on s'en lasse. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a traversé avec vous en musique, avec une formation de 6 musiciens derrière nous qui sont repartis dans les loges. Mais gros travail d'arrangement.
Ouais.
Parce que bah forcément des génériques comme cela, comme on a cité aussi dans le spectacle, il y a eu énormément d'excellents compositeurs pour les fabriquer, les faire. Il a fallu les réarranger pour que on puisse les entendre ce soir avec 6 musiciens, sachant que à l'époque il y avait des guitares, il y avait des violons, il y avait des orchestres entiers avec des conducteurs. Ouais. Donc voilà, je vais vous laisser un peu la parole quand même pour nous expliquer un petit peu le travail que vous avez fait autour de tout ça.
Ben, je dois dire, enfin, merci tout d'abord à Pierre-François Roussillon, qui est le directeur de l'Orchestre de Normandie, de m'avoir commandé ce texte et cet arrangement sur les séries, voilà. Et il m'a laissé carte blanche pour raconter une histoire. Et on s'est trouvé, enfin, en tout cas, j'ai rencontré grâce à lui Bruno Godard, qui a été l'arrangeur, qui s'est fadé un peu tout le travail quand même d'arrangement, donc pour un orchestre avant et percussions. Ce qui est pas exactement pareil. Il y a souvent des cordes en plus de comment dire dans les orchestres qu'on retrouve, par exemple dans Dynasty ou tout ça. Donc c'est vrai que ça a été une grande, enfin pour nous une chouette aventure de se reconfronter à notre histoire par rapport aux séries et par rapport à l'histoire politique que ça représente, et pas seulement à l'histoire personnelle. Et comme Pierre-François m'a donné carte blanche, j'ai pu essayer de traverser. Je crois qu'on peut applaudir les musiciens qui nous rejoignent, parce qu'ils ont fait quand même un travail extraordinaire.
Bravo.
Vraiment. C'est, vraiment.
Ah, qui sont revenus nous rejoindre du coup.
Ouais.
Donc oui, gros travail autour de l'écriture justement du texte, comme vous le disiez à l'instant. Alors ça a été écrit à plusieurs mains ou c'est tout seul ? C'est tout seul.
Donc, voilà.
Il y a eu un gros travail de recherche du coup. Ça a été difficile de faire les choix justement des différentes séries. Il a fallu prendre les plus marquantes, les plus... comment ça s'est fait ça ?
Bah, en fait, le sous-titre, c'était mon histoire des séries, mon histoire subjective des séries des années 70 à nos jours. Donc, c'est vrai que j'ai laissé parler un peu mon cœur, et puis à un moment, j'ai quand même répondu à certaines nécessités, parce que c'est vrai que sinon, il n'y aurait pas eu Dynasty, ni non Marc et Sophie, tout ça, là, on aurait, mais il fallait raconter cette partie de la production française qui a été assez pauvre, comment dire, pendant quelques années. Et par rapport à des pays qui avaient très bien compris le pouvoir que ça représentait.
Alors ils ont aussi cette culture de l'entertainment là-bas, comme nous on l'a moins, ou en tout cas d'une façon différente avec la comédie française, avec des Thierry Lafronde, comme on le citait au début aussi.
Ouais, mais on a fait quand même des formidables séries, enfin qu'on n'appelait pas séries, je le dis, les Brigades du Tigre ou justement Thierry Lafronde, ou il y a eu toute une époque où, en fait, la narration était quand même très, très présente et on faisait attention à ce qu'on racontait quand même. Et où on donnait des moyens pour que ça se passe devant l'écran, devant la caméra. Et je pense qu'on a perdu ça. Enfin, dans les années 80, on n'a pas perdu que la télé. Hein. On a perdu aussi la musique. Enfin, on a perdu deux, trois trucs quand même au milieu des années 80.
Ouais, c'était l'avènement des synthétiseurs, surtout à cette époque-là.
Voilà, et on ne savait pas tous les utiliser. Mm-hmm. Mais d'une certaine manière, c'est marrant cette espèce de trou noir qu'il y a eu à un moment dans la création. Alors que je pense que la création télévisuelle des années 70 en France, même l'après Seconde Guerre mondiale avec Jean-Christophe Avertier et tout ça, avait d'une certaine manière donné un espace de création. Seulement, comme d'habitude, c'est pas nous qui en avons profité, c'est les Américains qui ont compris que c'était le centre de leur travail. Mmh. Alors qu'on aurait pu attraper l'histoire, j'en suis sûr. D'ailleurs, on est capable de le faire puisque maintenant, on est capable de sortir des séries qui tiennent largement la route. Donc, comme quoi ?
Oui. Oui, oui. Alors là, vous avez tenu une sorte de conférence, on va dire, presque. Est-ce que vous n'êtes pas lassé d'entendre régulièrement, parce que c'est une performance que vous faites régulièrement, vous tournez avec ce spectacle-là. Est-ce que vous n'êtes pas lassé ?
Mais moi, c'était ma première ce soir.
C'était la première. C'est pour ça qu'on sent que vous êtes encore dedans.
Ah ben. non, mais moi, c'est voilà. En fait, on se partage parce qu'on a une chance d'avoir une très belle tournée, donc on se partage les dates avec mon camarade Fabrice Kals, qui est un vieux camarade de plateau. Et donc, je pense qu'on en était pour les musiciens à la quatrième, c'est ça? Troisième, quatrième? Quatrième. Donc voilà.
D'accord.
Mais il y en a encore 22 ou 23 là encore à faire. Donc, c'est le début de l'aventure en fait.
Alors, je vais faire passer un petit micro aux musiciens qui, déjà commencé par poser une petite question. Quel est le morceau, ou en tout cas, quelle est la série la plus difficile à interpréter? On a vu qu'il y avait Star Trek qui avait des longueurs de notes assez terribles. On a du Lalo Schifrin avec la Mission Impossible. Il y a quelques séries comme ça qui ont des mesures totalement décomposées, pour pas dire composées. Donc, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à interpréter? Hop, et le temps que je vous allume le micro, voilà. Alors attendez, on a personne. Pourquoi ça ne marche pas? Eh ben, on va prendre celui avec un fil. Ça marche mieux avec des fils. Hop. Voilà.
Alors vous aviez ce soir devant vous un quintet avant, percussion et comédien. Et il fallait jouer des œuvres qui sont à la base écrites pour orchestre, pour la plupart.
Voilà, c'est ce qu'on disait.
C'est une des premières difficultés de certaines pièces, c'est que normalement il y a toute une armada de cuivres, de percussions. Mm-hmm. Et là, avec un hautbois, un basson, une clarinette et une flûte et un cor, on arrivait à traduire cet orchestre. Voilà.
Et alors donc, pour revenir à la question, quel est le morceau ou en tout cas la série la plus difficile à interpréter? Je vais y arriver.
Oh, dans Mission Impossible, je pense qu'on aimerait un peu plus de cuivre.
Ouais. Alors il y a, comme je disais aussi, il y a un vrai travail de réarrangement finalement. Ça a été long. Combien ça a pris de temps à réarranger l'ensemble des morceaux pour que justement ça tienne sur un sextet comme ça?
Avec Bruno, on a travaillé le temps qu'on choisisse les morceaux, le temps que, comme on dit en face, ça a presque pris un an. En fait, c'était ça, hein, Pierre-François. Ça a pris un an, en fait, le temps de retravailler sur les morceaux. Et il y a même des morceaux qui ont été réarrangés, qui n'ont pas été utilisés. Parce qu'il fallait que ça serve aussi la narration. Donc, on en a sorti quelques-uns. Et dans les premières versions, il y avait même encore 5 pages de plus. Donc, en fait, on a coupé un peu, on a élagué, on a essayé de densifier un peu comment dire l'histoire. Que, voilà, ça reste passionnant. Mais Bruno, a pris beaucoup de temps. Enfin, ça a pris un an, oui.
Ouais, alors on entendait parler de Lalo Schifrin tout à l'heure, on parlait de Starsky et Hutch. pour la version américaine, on est bien d'accord. Hein.
Parce que... Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas la version française avec voilà. Vous avez tous Starsky et Hutch dans la tête avec la version française. C'est pas la Lalo Schifrin, ça c'est sûr.
Alors, on se rend compte justement, même si c'est réduit, on sextet de la qualité des compositions parce que voilà. Tout prend son sens déjà quand on vient voir en direct comme ça les instruments qui les jouent. Et est-ce que les séries parfois ne tiennent leur succès qu'à leur générique ? Est-ce que ça vous a paru flagrant ce genre de choses ou pas du tout ? Une question difficile.
Ce qui est intéressant, c'est quand les gens entendent le début d'un générique et qu'ils se disent tout de suite, ça, c'est cette série. C'est quand même un marqueur et c'est l'identité de la série. Ça peut être la musique parfois.
On entendait à un moment Hawaii Police d'État. Ouais. C'était pas non plus la meilleure série qui soit de l'univers, mais le générique, par contre, reste vraiment...
Amicalement vôtre, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, amicalement vôtre, on peut pas dire que le scénario était formidable quand même. Enfin, les scénarios étaient formidables. Mais de fait, par contre, je trouve que le générique est extraordinaire. C'est une composition assez formidable. Et du coup, on a presque plaisir à entendre le générique sans voir la série.
Mmh. Alors, j'invite les auditeurs, évidemment, à retourner chercher dans les placards, dans les disques, dans les collections de DVD, de réécouter un petit peu les musiques, les arrangements, les orchestrations, parce que, justement, ça vaut le coup, vraiment, de prêter l'oreille. C'est un autre rapport à la musique. On a toujours nos petites playlists Deezer, Spotify, etc. Bah, allez chercher un petit peu ces compositeurs-là, parce que, bah, voilà, ils ont le mérite. On les a applaudis tout à l'heure. On peut les rapplaudir encore une fois ces gens-là parce que bah, c'est ceux qui ont créé les souvenirs et la nostalgie dont on parle ce soir en fait. C'est exactement ça finalement.
Puis même, il y a des, comment dire, il y a des... je trouve que par exemple le thème d'House of Cards est un magnifique thème avec que des notes tenues, avec c'est à tomber. Enfin, il y a un espace de créativité en plus maintenant où il y a des orchestres entiers qui sont engagés pour jouer les thèmes, c'est assez magnifique.
Alors, j'ai mon petit micro baladeur là, ça y est, je pense que normalement ça devrait fonctionner. Oui, ça fonctionne, je l'entends. Alors, je vais proposer à Hélène, merci beaucoup, et au public ici présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on est là aussi pour discuter. C'est le but aussi de ces bords de scène, c'est quelles ont été vos impressions. Est-ce que vous avez, vous, des choses à demander de vos côtés, n'hésitez pas à poser la question. Y a-t-il une série, par exemple, que vous auriez aimé entendre David Vincent. Voilà. Est-ce que y a eu des demandes parfois comme
ça ? Je croyais l'entendre, mais on l'a pas eu.
Vous avez été déçu ?
Un petit peu.
je suis totalement désolé, parce que c'est de ma faute. C'est moi qui ai exclu David Vincent.
Ah.
Ah ben alors, de fait, oui, je peux comprendre, mais comment dire...
Vu mon âge, c'était plus les années 70-80.
Oui. Voilà, ouais, alors c'est ça, madame disait, on l'a pas entendu dans le micro, mais elle disait, dans les années 2000, j'étais un peu perdu. Voilà, mais ça se veut justement évolutif. Comme on l'a dit, de Hitchcock jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient été... alors peut-être pas déçu, mais qui aurait aimé entendre un générique en particulier, quelque chose. Alors Arsène Lupin pour Monsieur. Alors vous avez le micro si vous voulez. Voilà.
Oui. Jacques Dutronc.
Ah oui. Alors ouais. Oui, mais alors il aurait fallu le chanter.
Quand vous pensez que c'est un des instrumentistes, vous les avez reconnus quand même. Hein, qui est en train de dire ça après qu'on ait fait la création.
Non mais
en fait. Si, du coup, quand on a commencé à travailler dessus, j'ai acheté une sorte de dictionnaire de la série.
Mmh.
Non, mais en fait, c'est infini. C'est-à-dire que même quand c'était pas, entre guillemets, aussi facile, parce que ça tournait en pellicule, parce que, vous voyez, c'était beaucoup plus cher à produire à certains endroits et tout ça, et il n'y avait pas encore ces plateformes de distribution, mais en fait, il y a un nombre de séries incalculables, même françaises, qui ont été produites. Belphégor. Rappelez-vous, ça, c'était une grande série française. Fantomas, enfin, on se souvient tous de ça. Mais en fait, ça n'en finissait pas. Et il y a un moment, effectivement, ça a été un choix plus... Parfois, effectivement, un souvenir enfantin de ce que je partageais avec ma famille. Moi, pour le coup, le départ est vraiment ce que j'ai partagé. Et le char de Bénur aussi, d'ailleurs, qui a ravagé les rosiers de ma grand-mère. Ça, c'était vrai aussi. Mais du coup, c'est quelque chose de très, très personnel, là, le départ. Donc, c'est vrai que j'ai fait appel à des souvenirs. Alors, j'ai, du coup, vous savez bien, les souvenirs ne sont pas totalement exhaustifs. Hein. Donc, ça a été... Il y a ça qui est réapparu. Alors, donc, j'ai fait apparaître ça dans l'histoire.
Et c'est toujours pas fini, parce que des séries, on en crée de plus en plus. Maintenant, il y a un vivier de séries coréennes qui battent le pavé, qui montent au créneau vraiment, que ce soit aussi bien politique que gore, que dans tous les scènes possibles et imaginables. Il y a tout le monde entier s'y met à la série, ou en tout cas, nous, on s'y met aussi par l'intermédiaire des plateformes de diffusion. On peut choisir notre programme, on peut aller chercher on en a des palanqués, des pelletés à plus savoir qu'en faire. Est-ce, vous avez du boulot devant vous?
On a du boulot. Alors après, c'est comme tout, hein, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Ah bah. Y a des moments, moi qui suis abonné à Netflix par exemple, il y a des moments où c'est vrai que la qualité, ça dépend des jours. Ils sont tellement obligés de produire. Maintenant, les plateformes sont dédiées à ça. Donc ils produisent et ils reproduisent. Et parfois d'ailleurs, ils ne font que reproduire finalement certains systèmes. Il y a des moments où on sent qu'il y a des coups de mou dans la création quand même, hein. Et maintenant ils ont une telle concurrence. Vous imaginez entre Amazon, entre Canal+, entre Vivendi, puisque c'est ça en fait. On se rend bien compte qu'il y a une telle compétition qu'il faut qu'ils sortent à peu près une série tous les mois, ce qui est pas possible à produire en vrai.
On a une question de la...
Non, c'était par rapport aux séries qu'on aurait voulu entendre.
Ouais.
Parce que du coup, quand vous avez parlé un peu de l'influence des États-Unis et tout ça, ça aurait été, enfin, je pense, important que vous parliez de la série Malcolm. Je sais pas si vous...
Ah oui.
Parce que c'est une des séries qui a fait polémique à l'époque parce que elle représentait vraiment la famille américaine. Telle qu'on n'avait pas du tout envie de la voir et de la montrer au monde, quoi. Donc du coup c'était assez, enfin moi je me souviens que je regardais parce que je suis née en 97,
c'est indécent.
Et je me souviens que il y avait, bon, quand j'étais petite mes cousines regardaient, etc. Et donc effectivement c'est une série qui m'a marquée, mais ça dépend des âges, hein. Enfin voilà.
Oui, j'ai moins regardé Malcolm.
Coup, au niveau, peut-être au niveau de l'histoire des séries, justement, et tout ça, ça aurait pu être intéressant, ce côté-là.
Je suis d'accord, mais vous savez, j'en ai loupé plein, et il y en a qui m'ont été retirées, non pas parce qu'elles n'étaient pas intéressantes, mais parce qu'il y a un moment, c'était très compliqué. Vous voyez, on fait une petite virgule sur Friends, ou sur Les Experts, mais on sent bien qu'on ne peut pas traiter, en fait, beaucoup d'arrangements comme cela, parce qu'ils ne sont vraiment pas faits. C'est des guitares électriques, c'est du... Donc, on donne une sensation... Mais on a d'excellents musiciens avec nous et il faut qu'ils aient quelque chose à jouer, qu'ils soient de leur teneur, de l'ensemble que nous avons. Et on s'est rendu compte par moment que c'était impossible en fait de faire ou cette réduction ou cette transposition en fait pour cet ensemble-là. Et du coup, on a donné les Experts et les Friends, c'est peut-être les deux choses où on a donné comme ça une petite virgule. Mais la limite après de la réorchestration, c'est par exemple, les guitares électriques, on les a pas, quoi.
Enfin, voilà. Ouais, oui.
Voilà. Et il y a The Who, par exemple, quand même, il y a un moment où c'est quand même plus de la guitare électrique que des cuivres, hein. Enfin,
voilà. Est-ce qu'on pourrait inclure, est-ce qu'il aurait été possible d'inclure les Simpsons dedans? Puisqu'on parle de critique de la famille américaine et de l'Amérique en général.
Eh ben, je me suis limité à ne pas aller du côté des dessins animés. Mmh. Vraiment, parce que ça pourrait presque être un spectacle en soi, parce que c'est le deuxième dictionnaire que j'ai acheté. Et en fait, c'est tout un pan. C'est-à-dire que si on commence sur le manga des années 70-80 qui est arrivé, qui a été exploité par TF1 et tout ça jusqu'à maintenant, en fait, et Simpson comprise, et même toutes les trucs les plus trash qui ont été faits, qu'on voyait sur Canal à une époque. Mais tout ça, en fait, on fait un autre spectacle, quoi, parce que c'est tout un autre pan, en fait, de l'histoire.
Mmh, mmh, mmh. Est-ce que d'autres personnes auraient éventuellement des questions à poser à nos amis? Oui, la madame qui est avec le gilet jaune.
C'est pas une question, c'est une réflexion. C'est à propos de Malcolm, ça me fait penser à ça, parce que en écoutant toutes ces belles musiques ce soir, je me suis rendu compte que effectivement, comme tout le monde, elles ont suivi des pans de ma vie et à des moments très précis. Parce que par exemple, moi je suis née en 60, hein, évidemment, donc je me suis bien retrouvée dans toutes les premières. Et ben c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Et puis après on vieillit, puis on se rend compte qu'on a eu ses enfants, qu'il a fallu travailler. Donc là j'ai un creux parce que j'avais plus le temps d'écouter, je devais être fatiguée, je bossais, j'élevais mes enfants. Et puis après. Eh ben maintenant je suis comme vous, je suis sur Netflix et puis du coup bah Game of Thrones, bah oui, puis tout le reste aussi. Et donc je me dis ah tiens, j'ai eu un gros trou et puis maintenant ça repart. Et en fait, quand vous parlez de Malcolm, c'est mes enfants qui mes garçons regardaient Malcolm et moi je trouvais ça débile parce que je passais devant la télévision, je m'arrêtais jamais. Et puis un jour, je me suis dit eux ils sont revenus à la maison parce que maintenant ils sont un peu adultes et puis ils se sont dit ouais, si on regardait Malcolm les uns avec les autres, ils ont regardé, moi je me suis assise avec eux et en fait, je me suis dit mais c'était rigolo ce truc là. Et j'étais complètement passée à côté, quoi. Parce que c'était plus mon époque et que j'avais autre chose à faire. Donc c'est drôle. Et maintenant, bah, je savoure, comme de fait, des séries parce que je ne travaille plus et j'ai le temps. Et je choisis. Donc c'est vachement bien.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Finalement, les musiques des séries, c'est la bande-son de nos vies aussi. Voilà. Est-ce qu'on conclut là-dessus ?
Ben c'est très joli comme phrase, ça me paraît pas mal.
Eh ben, merci Pierre Deveau, merci à la compagnie.
Paul Deveau, mais vraiment, ça, on va pas y arriver aujourd'hui.
Non mais alors, voilà, j'ai une maladie, je rebaptise tout le monde.
D'accord.
Donc, vous n'êtes pas le premier.
Voilà, ça va très bien alors.
Compagnie L'Héliotrope avec l'orchestre régional de Normandie, sous des arrangements de Bruno Godard. Là, je me suis trompé sur rien parce que j'avais des notes en dessous des yeux.
C'est ça.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu du bord de scène pour ce soir. Merci, merci au théâtre Le Passage de nous avoir accueillis. Merci au public d'être resté jusqu'au bout. On vous souhaite bien la bonne soirée en compagnie des programmes de Radar qui vont reprendre dans quelques instants. Et puis un bon retour chez vous. Merci à tous. À la prochaine. Salut.
Des instrumentistes, vous les avez reconnus quand même, hein, qui est en train de me dire ça après qu'on ait fait la création. Non mais en fait, si du coup quand on a commencé à travailler dessus, j'ai acheté une sorte de dictionnaire de la série.
Mm-hmm.
Non mais en fait, c'est infini. C'est-à-dire que même quand c'était pas entre guillemets aussi facile parce que ça tournait en pellicule, parce que vous voyez c'était beaucoup plus cher à produire à certains endroits et tout ça, et il n'y avait pas encore ces plateformes de distribution, mais en fait il y a un nombre de séries incalculables, même françaises, qui ont été produites. Belphégor, rappelez-vous, ça c'était une grande série française. Fantomas, enfin on se souvient tous de ça. Mais en fait ça n'en finissait pas. Et il y a un moment effectivement ça a été un choix plus parfois effectivement un souvenir enfantin de ce que je partageais avec ma famille. Moi, pour le coup, le départ est vraiment ce que j'ai partagé, et le char de Bénure aussi, d'ailleurs, qui a ravagé les rosiers de ma grand-mère. Ça, c'était vrai aussi. Mais du coup, c'est quelque chose de très, très personnel, le départ. Donc, c'est vrai que j'ai fait appel à des souvenirs. Alors, vous savez bien, les souvenirs ne sont pas totalement exhaustifs. Hein. Donc, ça a été... Il y a ça qui est réapparu. Alors, donc, j'ai fait apparaître ça dans l'histoire.
Et c'est toujours pas fini parce que des séries, on en crée de plus en plus. Maintenant, il y a un vivier de séries coréennes qui battent le pavé, qui montent au créneau vraiment, que ce soit aussi bien politique que gore, que dans tous les séries possibles et imaginables. Il y a tout le monde entier s'y met à la série, ou en tout cas nous on s'y met aussi par l'intermédiaire des plateformes de diffusion. On peut choisir notre programme, on peut aller chercher. On en a des palanqués, des pelletés à plus savoir qu'en faire. Vous avez du boulot devant vous ?
On a du boulot. Alors après, c'est comme tout, hein, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Ah bah. Y a des moments, moi qui suis abonné à Netflix par exemple, il y a des moments où c'est vrai que la qualité, ça dépend des choses. Ils sont tellement obligés de produire. Maintenant, les plateformes sont dédiées à ça. Donc ils produisent et ils reproduisent. Et parfois d'ailleurs, ils ne font que reproduire finalement certains systèmes. Il y a des moments où on sent qu'il y a des coups de mou dans la création quand même. Hein. Et maintenant, ils ont une telle concurrence. Vous imaginez, entre Amazon, entre Canal+, entre Vivendi, puisque c'est ça en fait. On se rend bien compte qu'il y a une telle compétition qu'il faut qu'ils sortent à peu près une série tous les mois, ce qui n'est pas possible à produire en vrai. En vrai.
On a une question de la...
Non, c'était par rapport aux séries qu'on aurait voulu entendre.
Oui.
Parce que du coup, quand vous avez parlé un peu de l'influence des États-Unis et tout ça, ça aurait été, je pense, important que vous parliez de la série Malcolm. Je ne sais pas si vous...
Ah oui.
Parce que c'est une des séries qui a fait polémique à l'époque parce qu'elle représentait vraiment la famille américaine... telle qu'on n'avait pas du tout envie de la voir et de la montrer au monde, quoi. Donc du coup c'était assez, enfin moi je me souviens que je regardais parce que je suis née en 97,
c'est indécent.
Et je me souviens que quand j'étais petite mes cousines regardaient, etc. Et donc effectivement c'est une série qui m'a marquée, mais ça dépend des âges, hein. Enfin voilà.
Oui, j'ai moins regardé Malcolm.
Coup, au niveau, peut-être au niveau de l'histoire des séries, justement, et tout ça, ça aurait pu être intéressant ce côté-là.
Je suis d'accord, mais vous savez, j'en ai loupé plein, et il y en a qui m'ont été retirées, non pas parce qu'elles n'étaient pas intéressantes, mais parce qu'il y a un moment, c'était très compliqué. Vous voyez, on fait une petite virgule sur Friends, ou sur les experts.
Ouais.
Mais on sent bien qu'on ne peut pas traiter en fait, beaucoup d'arrangements comme cela, parce qu'ils ne sont vraiment pas faits. C'est des guitares électriques, c'est du... Donc, on donne une sensation... Mais on a d'excellents musiciens avec nous et il faut qu'ils aient quelque chose à jouer qui soit de leur teneur, de l'ensemble que nous avons. Et on s'est rendu compte par moment que c'était impossible en fait de faire ou cette réduction ou cette transposition en fait pour cet ensemble-là. Et du coup, on a donné les experts et les friends, c'est peut-être les deux choses où on a donné comme ça une petite virgule. Mais la limite après de la réorchestration, c'est par exemple, les guitares électriques, on les a pas, quoi.
Enfin, voilà. Ouais, oui.
Voilà. Et il y a The Who, par exemple, quand même, il y a un moment où c'est quand même plus de la guitare électrique que des cuivres. Hein. Enfin, voilà.
Est-ce qu'on pourrait inclure, est-ce qu'il aurait été possible d'inclure les Simpsons dedans? Puisqu'on parle de critique de la famille américaine et de l'Amérique en général.
Eh ben, je me suis limité à ne pas aller du côté des dessins animés.
Mmh.
Vraiment, parce que ça pourrait presque être un spectacle en soi, parce que c'est le deuxième dictionnaire que j'ai acheté. Et en fait, c'est tout un pan. C'est-à-dire que si on commence sur le manga des années 70-80 qui est arrivé, qui a été exploité par TF1 et tout ça jusqu'à maintenant, en fait... Et Simpson comprise, et même toutes les trucs les plus trash qui ont été faits, qu'on voyait sur Canal à une époque. Mais tout ça, en fait, on fait un autre spectacle, quoi, parce que c'est tout un autre pan, en fait, de l'histoire.
Mmh, mmh. Est-ce que d'autres personnes auraient éventuellement des questions à poser à nos amis? Oui, la madame qui est avec le gilet jaune.
C'est pas une question, c'est une réflexion. C'est à propos de Malcolm, ça me fait penser à ça, parce que en écoutant toutes ces belles musiques ce soir, je me suis rendu compte que effectivement, comme tout le monde, elles ont suivi des pans de ma vie et à des moments très précis. Parce que par exemple, moi je suis née en 60, hein, évidemment, donc je me suis bien retrouvée dans toutes les premières. Et ben c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Et puis après on vieillit, puis on se rend compte qu'on a eu ses enfants, qu'il a fallu travailler. Donc là j'ai un creux parce que j'avais plus le temps d'écouter, j'avais été fatiguée, je bossais, j'élevais mes enfants. Et puis après. Et maintenant je suis comme vous, je suis sur Netflix et puis du coup Game of Thrones, puis tout le reste aussi. Et donc je me dis ah tiens, j'ai eu un gros trou et puis maintenant ça repart. Et en fait quand vous parlez de Malcolm, c'est mes enfants mes garçons regardaient Malcolm et moi je trouvais ça débile parce que je passais devant la télévision, je m'arrêtais jamais. Et puis un jour, je me suis dit eux ils sont revenus à la maison parce que maintenant ils sont un peu adultes et puis ils se sont dit ouais, si on regardait Malcolm les uns avec les autres, ils ont regardé, moi je me suis assise avec eux et en fait je me suis dit mais c'était rigolo ce truc là et j'étais complètement passée à côté, quoi, parce que c'était plus mon époque et que j'avais autre chose à faire, donc c'est drôle. Et maintenant je savoure comme de fait des séries parce que je ne travaille plus et j'ai le temps et je choisis, donc c'est vachement bien.
Ouais, je suis d'accord avec vous.
Finalement, les musiques des séries, c'est la bande-son de nos vies aussi. Voilà. Est-ce qu'on conclut là-dessus ?
Ben c'est très joli comme phrase, ça me paraît pas mal.
Eh ben, merci Pierre Devaux, merci à la compagnie.
Paul Devaux, mais vraiment, ça, on va pas y arriver aujourd'hui.
Non, mais alors, voilà, j'ai une maladie, je rebaptise tout le monde.
D'accord.
Donc, vous n'êtes pas le premier.
Voilà, ça va très bien alors.
Compagnie L'Héliotrope avec l'orchestre régional de Normandie, sous des arrangements de Bruno Godard. Là, je me suis trompé sur rien parce que j'avais des notes en dessous des yeux.
C'est ça.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu du bord de scène pour ce soir. Merci, merci au théâtre Le Passage de nous avoir accueillis. Merci au public d'être resté jusqu'au bout. On vous souhaite bien la bonne soirée en compagnie des programmes de Radar qui vont reprendre dans quelques instants. Et puis, un bon retour chez vous. Merci à tous. À la prochaine. Salut.